Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir chers amis auditeurs, en ce dimanche 14 mars 2021, j'ai le grand plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Première attaque d'envergure contre la DCA israélienne, Israël lance un SOS à l'OTAN. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, l'Iran rejette une proposition de pas à pas visant à relancer l'accord nucléaire de 2015 sur le nucléaire, le jugeant non conforme à la politique de la République islamique. Le Haut Conseil iranien des droits de l'homme nomme un rapporteur pour examiner les effets des sanctions anti-iraniennes. Et puis les États-Unis affirment que la Corée du Nord n'a donné aucune réponse aux tentatives de Washington de reprendre le dialogue, et cela malgré des pressions diplomatiques en coulisses pour essayer de joindre Pyongyang depuis la mi-février. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'Iran rejette une proposition de pas à pas visant à relancer l'accord nucléaire de 2015 sur le nucléaire, le jugeant non conforme à la politique de la République islamique d'Iran. Selon un rapport de Presse TV, l'initiative a été proposée dans le cadre des efforts d'un lobbying au sein de la nouvelle administration américaine et soutenue par l'Europe. Le rapport révèle que Washington cherche à amener Téhéran à la table des négociations pour obtenir plus de concessions en échange de la libération d'une quantité limitée d'avoir gelé d'Iran. Fustigeant l'initiative, le rapport souligne que de telles propositions doivent être conformes à la position déclarée par le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Khamenei. Les États-Unis doivent lever toutes les sanctions s'ils veulent que l'Iran revienne au plein respect de l'accord multilatéral nucléaire de 2015, a déjà tranché l'Ayatollah Khamenei. Le Haut Conseil iranien des droits de l'homme nomme un rapporteur pour examiner les effets des sanctions. Cette autorité judiciaire iranienne a critiqué les États-Unis et leurs alliés européens pour violation flagrante et totale des droits de la nation iranienne. Le siège des droits de l'homme de la République islamique d'Iran est fermement décidé à protéger les droits du peuple iranien et à cet égard, un rapporteur spécial sera nommé l'année prochaine pour examiner les effets des sanctions, annonce le secrétaire du Haut Conseil iranien des droits de l'homme, Ali Boreri Kani. Cette autorité judiciaire a fait cette déclaration dimanche en marge d'une réunion avec des ambassadeurs de pays étrangers et des représentants d'organisations internationales en poste à Téhéran, ayant pour thème « Les droits de l'homme à l'ère de la responsabilité et de l'audit ». Boreri Kani a ajouté « Ce rapporteur spécial examine dans quelle mesure les personnes physiques et morales impliquées dans l'imposition de sanctions anti-iraniennes aux États-Unis et en Europe sont impliquées. Il sera chargé de fournir des rapports spécialisés aux autorités judiciaires, juridiques et des droits de l'homme internationales, régionales et iraniennes. » Le secrétaire du Haut Conseil iranien pour les droits de l'homme, pointant du doigt le bilan atroce des États-Unis et de leurs alliés en matière de violation des droits des Iraniens, poursuivit « Ces pays instrumentalisent les organisations internationales à des fins intéressées et pour agir contre l'Iran avec une pression maximale. Dénonçant les sanctions imposées par les États-Unis à l'Iran, le secrétaire du Haut Conseil iranien pour les droits de l'homme affirme que Washington avait pris en otage le gagne-pain de la nation iranienne dans une tentative de faire renoncer à ses droits inaliénables. Ali Borelikani a noté que les pays européens sont en fait complices des crimes américains en appliquant des sanctions contre l'Iran. La lettre de Zarif à Josep Borrell expose la position de l'Iran et n'inclut aucun plan déclaration depuis Téhéran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a une fois de plus réaffirmé que le plein retour des États-Unis à leurs obligations en vertu d'un accord nucléaire de 2015 abandonné par l'ancien président américain Donald Trump est la première étape nécessaire que Washington devrait franchir pour compenser ses violations de l'accord multilatéral. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré samedi que Zarif avait envoyé une lettre au chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, le 12 mars, expliquant la position de la République islamique sur les derniers développements concernant l'accord nucléaire, officiellement connu sous le nom du Plan global d'action conjoint GCPOA. La lettre de Zarif à Borrell expose la position de la République islamique d'Iran et n'inclut aucun plan, a-t-il ajouté. Le porte-parole iranien a déclaré que dans la lettre adressée au coordinateur de la commission mixte du GCPOA, M. Zarif a souligné que si les États-Unis ont l'intention de compenser leurs mesures en violation du GCPOA et l'imposition de sanctions cruelles à l'Iran, à la première étape nécessaire serait pour Washington de revenir pleinement au respect du GCPOA en tant que violant la partie. Il a noté que le ministre iranien des Affaires étrangères avait déjà envoyé de nombreuses lettres similaires à Borrell et à l'ancienne chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Federica Mogherini, sur l'accord nucléaire. M. Khatibzadeh a fait ces remarques après que certains médias aient rapporté que dans sa lettre à Borrell, le haut diplomate iranien avait critiqué les positions de la nouvelle administration américaine et des côtés européens au GCPOA concernant l'accord. Il a également été affirmé que Zarif avait déclaré à Borrell que si les autres parties à l'accord nucléaire remplissent leurs obligations, l'Iran arrêterait également ses mesures prises sur la base de l'article 36 du GCPOA en réponse au retrait des États-Unis de l'accord en 2018. Le sort de l'accord nucléaire signé entre l'Iran et le groupe de pays 5+1, à savoir États-Unis, Royaume-Uni, France, Russie, Chine plus l'Allemagne, après des années de diplomatie et de négociations intensives, reste incertain principalement en raison des mesures américaines, y compris sa réimposition des sanctions contre Téhéran. Malgré le soutien verbal du GCPOA, les parties européennes à l'accord ont finalement succombé à la pression de Washington et n'ont pas respecté leurs engagements contractuels envers Téhéran. L'Arabie saoudite a lancé une nouvelle frappe de drone dans la province de Hudaydah au sud-ouest de Sana'a au Yémen, tuant une mère et blessant son enfant. Selon les médias yéménites, l'attaque a été menée sur le district de Hawak. L'Arabie saoudite et ses alliés ont lancé une guerre contre le Yémen en 2015 dans le but de rétablir un régime fantoche ami de Riyad. La guerre a jusqu'à présent tué des dizaines de milliers de personnes, parmi lesquelles un grand nombre de femmes et d'enfants. À la tête d'une coalition d'agression, Riyad a également maintenu un blocus total paralysant contre son voisin du sud, entravant l'acheminement d'une aide humanitaire vitale à la nation déchirée par la guerre. Plusieurs personnes ont été arrêtées dans la ville belge de Liège après des manifestations antiracistes dégénérées en violence. Plusieurs policiers ont été blessés lors de la manifestation Black Lives Matter. Une porte-parole de la police a déclaré qu'un groupe de jeunes s'était joint aux manifestants pacifiques et avait ensuite quitté la manifestation pour détruire le centre-ville. Selon la police, des pelotons de maintien d'ordre étaient prévus pour intervenir en cas d'incident à Liège. Toujours selon la police, ces jeunes se déplaçaient très rapidement en groupe, pillant des magasins et jetant des pierres sur les postes de police et les véhicules. Les violences ont éclaté lors d'une manifestation contre l'arrestation d'une femme qui avait accusé la police de racisme. La police a rejeté cette accusation, affirmant que la femme avait résisté à son arrestation. Une nouvelle manifestation contre la loi de sécurité globale a eu lieu ce samedi, place Bellecour à Lyon, en France. Les différents collectifs réclament toujours la suppression de cette loi qui sera examinée par le Sénat le 16 mars prochain. Le rassemblement a été organisé par des militants et des familles dont leurs membres ont été victimes de brutalités policières. Les manifestants ont une fois de plus exprimé leur opposition au projet et l'ont qualifié de violation de leurs droits. Un projet de loi qui vise à renforcer la protection des agents de l'État. Pour ce faire, l'article 24 prévoit un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de diffusion de l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police. Le débat sur le projet de loi Sécurité globale en commission des lois du Sénat a eu lieu à huis clos le 3 mars. Plusieurs amendements ont été apportés par les sénateurs sur ce texte vivement controversé. Ce sont notamment les articles 21, 22 et 24 qui sont pointés du doigt par les détracteurs de la loi. L'article 21 donne la possibilité aux policiers d'avoir directement accès aux enregistrements de leurs caméras piétons. Adopté par l'Assemblée nationale le 24 novembre 2020, la proposition de la loi sur la sécurité globale qui suit une procédure accélérée sera examinée le 16 mars 2021 au Sénat en séance publique. Enfin, les États-Unis affirment que la Corée du Nord n'a donné aucune réponse aux tentatives de Washington de reprendre le dialogue, et cela malgré des pressions diplomatiques en coulisses pour essayer de joindre Pyongyang depuis la mi-février. Un haut responsable de l'administration Biden a déclaré à CNN que Washington avait utilisé plusieurs canaux pour joindre Pyongyang, mais en vain. Afin de réduire le risque d'escalade, les autorités américaines ont essayé de joindre Pyongyang via divers canaux de communication à partir de la mi-février, incluant l'intermédiaire de la mission de l'ONU sans que rien n'aboutisse, a précisé le fonctionnaire qui a requis l'anonymat. L'ancien président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un se sont rencontrés à deux reprises en 2018 et 2019. Résoudre le problème de dénucléarisation de la péninsule coréenne, mais les négociations ont échoué car Washington a refusé de lever les sanctions en échange des mesures de bonne volonté de Pyongyang. L'administration Biden n'a pas rendu publique son approche de la Corée du Nord, mais a déclaré qu'elle procédait à un examen de sa politique. Fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Première attaque d'envergure contre la DCA israélienne. Israël lance un SOS à l'OTAN. Le vendredi 12 mars, à peine quelques heures après que le port conteneur iranien Shahrekort eut été pris pour cible d'un semblant de missile de croisière, alors qu'il traversait à la hauteur de Haïfa pour se rendre à Baniyas en Syrie, où il devait livrer marchandises, essence et vivre au mépris total de la loi César. Le dôme de fer israélien s'est mis soudain à marcher et à tirer comme des fous dans toutes les directions. Il s'agissait d'une batterie placée sur le front sud, où l'entité sioniste craint outre les commandos et les missiles de Gaza qui vient réélire le commandant Sinwar à sa direction. Ces bateaux téléguidés et piégés, dont un a fait irruption voici peu en plein exercice naval israélien, quitte à mettre son dessus-dessous destroyers, corvettes et hélicos sionistes qui ont fini par lui tirer dessus et le faire couler, se vantant d'avoir anéanti une menace potentielle. Revenons sur ce très grave incident dont les images envahissent depuis quelques heures la toile. Images qui en disent long sur le degré de perméabilité du sioniste dans un contexte marqué par une guerre aérienne sans précédent entre l'axe US-Israël d'une part et la résistance de l'autre, Avishai Adraï, le porte-parole de l'armée israélienne, a tenté de le minorer. Erreur d'interception, a-t-il dit, comme si c'est normal qu'un bouclier antimissile qu'on dit appartenir à une DCA intégrée US-Israël golfien déconne soudain puis s'autodétruise, alors qu'il est entouré de quelques 200 000 missiles hostiles. Et pourtant, parmi ces sionistes dont le Premier ministre n'a pas osé, en dépit d'une campagne électorale fatidique pour sa survie d'homme et de politique, se rendre cette semaine aux Émirats par crainte d'être traqué, comme le 27 novembre dernier à Neom, par des nuées de missiles de Rondin Sarallah, il y aurait dû avoir quelques-uns qui s'interrogent sur les vraies raisons de ce dysfonctionnement. Surtout qu'au quelques jours plus tôt, à savoir le 7 mars, un méga complexe composé de pas moins de 12 batteries de Patriotes PAC-3, OPS, réparties entre la côte ouest saoudienne et Bahreïn 5e flotte, le Qatar Al-Udaid, les Émirats Al-Dafar, le Koweït, a lamentablement échoué à intercepter des missiles Badr et Zulfarar d'un Sarallah du Yémen, tout comme plusieurs drones Samad 3 et Kassef K2, et que tout compte fait d'hommes de fer avec ses radars MIOP appartient à cette même famille de DCA. Si en Israël les langues se sont tues, c'est qu'il se passe depuis peu dans le ciel d'Israël un séisme dont les impacts ne sont pas moindres que ces vagues de missiles Hezbollah, Gaza, Sarallah, Iran qui hantent les nuits d'Israël. Pour la seconde fois en l'espace de 15 jours, Israël a été la cible vendredi d'un vaste assaut électronique propre à couper tout lien GPS dans le ciel d'Israël. Cette coupure, que des sources militaires fiables attribuent à l'axe de la résistance, aurait désactivé le GPS à la fois dans le ciel d'Israël, de la Syrie, mais aussi du Liban, soit trois zones principales d'opération de l'armée de l'air sioniste.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat. Les trois signataires européens de l'accord nucléaire de 2015 ont décidé de suspendre le processus de rédaction d'une résolution anti-iranienne lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'ambassadeur d'Iran auprès des organisations basées à Vienne a salué cette décision, affirmant que les tentatives visant à intensifier les tensions inutiles avaient été déjouées par des efforts diplomatiques. En effet, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne avaient fait circuler un projet soutenu par les États-Unis pour critiquer l'Iran pour avoir limité sa coopération avec l'agence. Le mois dernier, l'Iran a mis fin à la mise en œuvre volontaire du protocole additionnel au traité de non-prolifération nucléaire, mais aussi aux inspections rapides et instantanées de l'AIEA en réponse à l'inaction des pays européens, notamment de remplir leurs engagements dans le cadre de l'accord nucléaire. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur les principales raisons de cette volte-face européenne au sein du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, l'avenir du plan global d'action conjoint et, bien entendu, le positionnement de la nouvelle administration américaine à cet égard. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron, le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, a déclaré que chaque opportunité qui s'opère rendra plus difficile le maintien de l'accord nucléaire. La décision de l'Iran de s'affranchir graduellement de ses engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire puise dans le retrait des États-Unis et l'incapacité de trois pays européens d'honorer leurs engagements, a déclaré Hassan Rouhani ajoutant que l'Iran pourra revenir immédiatement à ses engagements une fois que les autres parties reprendront le leur. Il a souligné que toute mesure ou toute position contre-productive au sein du Conseil des gouverneurs pourrait entraîner de nouveaux défis et compliquer davantage la situation. Qualifiant la France d'une partie de poids, Hassan Rouhani a déclaré « Les relations entre Téhéran et Paris pourront développer à base d'un point de vue stable et des objectifs à long terme dans le sens des coopérations bilatérales au niveau régional et international. » De son côté, le chef d'État français Emmanuel Macron a déclaré que le maintien de l'accord nucléaire constituait une nécessité pour la communauté mondiale. Il a ensuite mis l'accent sur la poursuite des négociations pour que toutes les parties puissent respecter de nouveau leurs engagements. Emmanuel Macron a souligné que les deux parties devraient franchir les premiers pas. L'Europe est prête à devenir plus active pendant les semaines à venir pour revivifier l'accord nucléaire, a-t-il ajouté. En effet, l'Iran a rejeté le dimanche 28 février toute idée de réunion informelle avec les États-Unis et l'Union européenne pour discuter de la relance de l'accord nucléaire de 2015, insistant sur une levée par Washington de toutes ses sanctions unilatérales. Il ne leur reste donc que deux voies aux USA, faire de promesses bien sûr fausses pour pouvoir stopper les activités nucléaires iraniennes ou bien annuler immédiatement toutes les sanctions. La première méthode, la même utilisée par Obama, n'a plus d'utilité et n'en avait d'ailleurs jamais. Quant à la deuxième option, les États-Unis ne la souhaitaient aucunement, mais elle serait pourtant moins coûteuse qu'une guerre déjà échouée, l'Iran ayant prouvé sa puissance militaire. L'Iran marche sur la bonne voie, le grand Satan Occident n'aura qu'à se plier.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir depuis Paris M. Jacob Cohen, analyste politique, et depuis Bruxelles, M. Luc Michel, géopoliticien. M. Michel, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe et bonjour à mon collègue Cohen.
Monsieur Michel, peut-être à la dernière minute, les trois pays européens signataires de l'accord nucléaire de 2015 ont décidé de suspendre, en effet, le processus de rédaction d'une résolution, d'un projet de résolution soutenu d'ailleurs par les États-Unis au sein du Conseil des gouverneurs de l'AIEA. Qu'est-ce qui a poussé le trio européen à prendre cette décision, Monsieur Michel?
L'Europe, ce qu'on appelle l'Europe, qui est la petite Europe de Bruxelles, puisqu'il existe une seconde Europe qui va de Vladivostok à Minsk, autour de Moscou, la petite Europe de Bruxelles, c'est un peu comme un poulet sans tête qui continue à courir. Les Européens sont noyés de figures contradictoires venant de l'administration américaine. Ça ne se passe pas du tout avec Biden comme il le pensait. Et donc, on a la peine d'idée d'une politique incohérente. Mais ce qu'il faut retenir, ce sont les deux nouvelles qui sont être dites cette semaine. Vendredi, l'administration Biden a renouvelé pour un an les sanctions contre l'Iran. Elle en a dit, sans prétexte, la même chose que Trump lorsqu'il avait signé les accords de Genève. L'Iran a un programme balistique. L'Iran, même la guerre classique et la guerre hybride, je dis là-bas évidemment le Hezbollah et les ministres pro-iraniennes. Et enfin, l'Iran a une politique régionale dite agressive. C'est exactement ce que l'Iran devrait renégocier. C'est Téhéran a précisé que ça ne serait pas le cas. La deuxième nouvelle, elle vient d'Israël. Vous savez que l'Israël est un pays qui a occultement la bombe atomique. Tout le monde sait que Israël fait partie des deux puissances atomiques. Et pourtant, pour eux, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de traité de non-prolifération, il n'y a rien. Cette semaine, les Israéliens ont annoncé qu'à leur centrale nucléaire de Dimona, ils allaient produire plus de bombes atomiques. On pense que les Israéliens ont en plus de 200 têtes installées sur des missiles de croisière, perchées, modifiées, installées le tout sur des sous-marins allemands de la classe Dolphin. Eh bien, les Israéliens entendent doubler leur arsenal nucléaire. C'est C'est ça qu'il faut retenir. Le reste, c'est l'administration. L'identité pleine d'hypocrisie. Et les Européens aussi, parce qu'il n'y a pas un mot pour condamner Israël. Au contraire, c'est cette France que l'on dit des pro-arabes, c'est la France du général de Gaulle dans les années 60 qui a donné l'article hier à Israël.
Merci pour ces précisions. Restez avec nous, Monsieur Michel. On va tout de suite rejoindre Monsieur Jacob Cohen, analyste politique depuis Paris. Monsieur Cohen, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Je vous fais juste remarquer que j'ai eu beaucoup de peine à entendre ce que disait mon collègue de Bruxelles. Donc vraiment, je n'ai pas saisi tout à fait. Voilà. Donc je ne saurais pas lui répondre à ce qu'il a dit éventuellement. Voilà.
Je vous pose la même question, d'une manière peut-être d'accord. Un peu différente, Monsieur Cohen. Qu'est-ce qui, justement, vous êtes au courant de ce qui s'est passé récemment au sein du Conseil des gouverneurs de l'AEA, cette volte-face au virement des pays européens, des signataires européens. Et pour vous, qu'est-ce qui justifie justement cette volte-face européenne au sein de l'AEA?
Écoutez, moi, je pars du constat que autant les États-Unis que les pays européens, que la Chine, la Russie veulent revenir à l'accord. Bon, et donc, une fois cela admis, c'est-à-dire qu'avec Trump, il n'était pas question de revenir sur l'accord, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc, aujourd'hui, on sait qu'on veut revenir à l'accord de 2015. Et évidemment, on rentre dans une espèce de ping-pong diplomatique où chacun avance ses pions. Il y a une partie émergée, publique, émergée de l'iceberg que nous on voit, et puis il y a tout ce qui se passe derrière le rideau, si on peut dire. C'est-à-dire, chaque camp, parce qu'il y a l'Iran contre 5 pays ou vis-à-vis de 5 pays, donc chaque camp avance ses pions. Et parfois, on dirait, on peut avoir l'impression qu'il y a du recul, et puis il y a du mouvement vers l'avant, mais ce sont les jeux normaux d'une négociation ardue, mais à laquelle je pense qu'on devrait aboutir. Voilà, ce sont là juste, comment dire, ça fait partie des négociations, surtout sur un terrain aussi sensible, mais finalement, on peut, pourquoi à ce moment-là on est revenu, etc. Ça fait partie juste, des va-et-vient qui finiront par aboutir.
Merci, Monsieur Cohen. Monsieur Michel, si vous voulez, on va revenir justement à cette promesse électorale de l'administration Biden. Et bien sûr, depuis son entrée en fonction, les autorités américaines ont réitéré la volonté de la nouvelle administration américaine de réintégrer l'accord nucléaire de 2015. Alors, pour la République islamique d'Iran, cet accord, bien sûr, ne peut pas être renégocié. Et le retour des États-Unis n'a aucun sens sans la levée des sanctions, sans le respect de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU ayant approuvé justement l'accord nucléaire. Alors la question qui se pose, Monsieur Michel, est-ce que l'administration Biden est sérieuse dans sa volonté de réintégrer l'accord, d'autant plus que tout récemment, le leader de la révolution islamique a souligné que, alors, les paroles, ça suffit, la République islamique d'Iran attend des actes, et est-ce que l'administration Biden est disposée et sérieuse, a une volonté sérieuse de franchir ce pas en pratique?
Je pense qu'elle ne l'est pas. Je pense pas qu'elle n'est pas sérieuse, je pense qu'elle n'est pas sincère. Comme je vous le disais vendredi matin, le communiqué du State Department a été élu. Les sanctions sont renouvelées contre l'Iran pendant une année. On ne peut pas dire à la fois de revenir dans l'accord de Genève et nous maintenons les sanctions de Trump. Il faut comprendre quelque chose à l'administration Biden. Beaucoup avaient cru que ça allait être un retour aux années Obama, en oubliant qu'Obama, c'était l'homme du printemps arabe, du printemps africain, de la confrontation avec la Russie sur le dossier de la Crimée, de la confrontation avec la Chine et l'Iran. On sait aujourd'hui que l'administration Biden, c'est un mélange de ce qui avait été le régime de Bush 2, c'est-à-dire l'outil militaire, la confrontation militaire, l'administration Obama, les pseudo-négociations, mais tout en préservant les acquis, ce qui pense être les acquis de Trump. Partout, Biden cherche la confrontation contre la pays. Au Proche-Orient, on vient de nouveau de bombarder la Syrie. Il ne faut rien attendre de cette administration. Il ne faut pas oublier que, à la tête de l'administration Biden, en réalité, la patronne, c'est Kamala Harris. Kamala Harris, c'est ce qu'on fait de pire dans la gauche californienne. C'est une femme qui est issue des réseaux Obama, mais surtout qui est une proche associée du milliardaire George Soros. Lorsqu'elle était procureure générale de Californie, elle a évité des poursuites judiciaires au fils de Soros, Alexander. Et donc, c'est une enragée de la russophobie, de la sinophobie, de l'irabophobie. Il ne faut rien attendre. Je ne partage pas l'optimisme de mon collègue. Et moi, je pense simplement, c'est ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a peut-être une comédie entre les Européens et les Américains. Vous savez, à Hollywood, il y avait dans les films de Hollywood, il y a le mauvais flic et le bon flic. Ce qu'on appelle en français la politique de la carotte et du bâton. L'Union Européenne qui fait de beaux discours, c'est la carotte. Biden qui renouvelle les fonctions, c'est le bâton.
Merci encore, M. Michel. M. Cohen.
Oui.
Et pour vous, justement, l'administration Biden est-elle sincère, est-elle sérieuse? Parce que, alors, Monsieur Michel ne partage pas votre optimisme. Bien sûr, il y a, alors, il y a des paroles, il y a des paroles. Il y a eu, en 2018, de la part des pays européens, la condamnation verbale du retrait des États-Unis. Mais la question qui se pose, justement, pour le maintien, pour sauver cet accord, alors, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a cette sincérité, ce sérieux de la part des signataires, de tous les signataires, notamment, alors, d'abord, bien sûr, l'administration américaine, mais aussi des pays européens, de vouloir remplir pleinement leurs obligations dans le cadre de cet accord?
Écoutez, vous savez, en diplomatie, je ne crois pas beaucoup dans la notion de sincérité. Il y a un rapport de force, voilà. Et il y a une situation, je pense que si les Européens veulent revenir à l'accord, c'est pas pour les beaux yeux de l'Iran, c'est parce qu'ils savent qu'ils veulent éviter une situation, disons, un dérapage vers lequel on ne sait pas où ça peut aboutir. Donc, c'est dans l'intérêt des Européens, de la stabilité d'une région très sensible, très particulière, qu'ils ont établi cet accord. Les Européens et les Américains n'ont aucune sympathie pour le régime iranien. Donc, ils voudraient tout faire pour le saboter. Donc, s'ils sont arrivés à cet accord en 2015, c'est qu'ils ont estimé qu'il valait mieux cet accord qu'une tension permanente qui pourrait aboutir à des choses qu'on ne voudrait pas. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je pense que s'il y a, comment dire, cet emballement diplomatique autour de l'accord de 2015 avec l'Iran, c'est qu'il y a quelque part une volonté d'y arriver. Donc, je vois mal, c'est un emballement diplomatique pour des prunes. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une volonté de l'Occident, en tout cas des Européens et de l'administration Biden, de chercher un accord. Évidemment, ils vont tout faire pour extorquer un accord avec des pressions, etc., au détriment de l'Iran. Donc, pour moi, je pense que c'est une négociation. C'est pas une question d'optimisme. Je pense que les deux parties ont intérêt à arriver à l'accord. Et donc, il va y avoir un jeu de négociation, de rapport de force, comme un jeu de poker. Et donc, je pense que, vu les conditions dans lesquelles il y a cet emballement diplomatique, à mon avis, je vois mal comment on pourrait ne pas aboutir à un accord. Parce que sinon, il y aurait une telle frustration de part et d'autre que il aurait mieux valu ne pas donner des gages comme ça pour rien. Voilà, c'est pour ça que je crois que cette machine diplomatique qui s'est enclenchée, elle ne peut aboutir qu'à un accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on a enclenché un processus avec ses hauts et ses bas, ses rapports de force, ses pressions, etc. Donc ce n'est pas une question de sincérité, je pense que c'est une question que les partis ont jugé à un moment donné qu'un accord est préférable à autre chose. Et donc, ils feront tout faire avec tout ce que cela comporte de pression, de mauvaise foi. Il y a beaucoup de mauvaise foi en diplomatie. C'est pas, la mauvaise foi en diplomatie n'est pas une nouveauté. C'est tout à fait naturel. Donc, pression, mauvaise foi, etc. Mais, quelque part, je pense qu'ils ont, on a montré un certain intérêt pour cet accord. Voilà.
Merci, Monsieur Cohen. Monsieur Michel, dans quelle mesure un accord viable et durable pourrait sortir de ce rapport de force, de ce jeu de poker, comme disait Monsieur Cohen?
Écoutez, je ne partage pas du tout cette vision. Ce qu'on voudrait, c'est soit que l'Iran se désarme, un peu comme la Jamaïque et la Libye de Kadhafi avaient désarmé en 2003. On sait comment ça a terminé. Autrement pas. Simplement, les Occidentaux sont en train de gagner du temps. Je vous expliquais que les sanctions sont renouvelées pour un an, depuis vendredi, par l'administration Biden. Les Israéliens sont en train de doubler leur production de têtes nucléaires. Les Américains sont en train d'organiser ce qu'on appelle l'OTAN du Proche-Orient, avec Israël, l'Arabie Saoudite, Dubaï et le Bahreïn, qui visent directement l'Iran. Et enfin, il y a bien entendu toute cette politique de confrontation, l'incident dans le Golfe d'Oman, etc. C'est la confrontation. Biden est clairement en train de resserrer les rangs. Vous savez, quand on assiste, ils ne sont pas jugés simplement les rapports de Biden avec les Européens. Il faut voir quelle est la stratégie mondiale. Les Américains sont en train d'organiser l'OTAN du Proche-Orient. Ils sont en train de revitaliser l'OTAN elle-même. Enfin, ils sont en train de revitaliser, comme dans les années 60, ce qu'on appelait l'OTA, l'Organisation du Traité de la Ville du Sud-Est, qui réunissait l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon notamment. Tout cela, c'est une politique de confrontation vis-à-vis du bloc de l'Est, de Moscou, de Pékin, de Téhéran. Le reste, je ne pense pas qu'il sortira quelque chose. Si les Européens avaient été sincères, il faudrait tout simplement lâcher les accords de Genève en 2018. Depuis 2018, ils ont suivi la Strasbourg en tout. C'est ça qu'il faut savoir. Et aujourd'hui, Biden est simplement en train de marcher sur les pas de l'administration Trump, malgré les beaux discours médiatiques, les promesses de campagne électorale. Jacques Chirac disait que les promesses n'engageaient que ceux qui y croient. C'est un peu ça qui s'est passé. On me dise pourquoi une partie qui voudrait réellement jouer le diplomatique écossais retirer le fait, pourquoi elle vient juste, il y a 48 heures, de redoubler les sanctions contre l'Iran pour un an, en les motivant exactement avec le calendrier qui était celui de Trump lorsqu'il a quitté les accords de l'Iran. Il n'y a rien à attendre des Occidentaux. C'est ça que les Iraniens là, je comprends.
Merci. Une toute dernière question à Monsieur Cohen. Monsieur Cohen, alors,
oui.
Dans un cadre plus général, comment repensez-vous ces évolutions, y compris bien entendu la question du nucléaire iranien, la question de l'accord nucléaire de 2015, dans le contexte des évolutions régionales et internationales, et surtout, comme disait Monsieur Michel, cette logique de confrontation entre les États-Unis et les pays européens d'une part, et d'autre part, bien entendu, alors les pays de l'Est et les pays du Moyen-Orient, notamment, je veux dire, l'axe de la résistance.
Oui, je voudrais d'abord poser un principe, c'est que l'Occident s'est toujours montré hostile au régime iranien depuis la révolution islamique. Donc, l'Occident ne fera aucun cadeau à l'Iran. Voilà. Il faut partir de cette base. Voilà. Et si en 2015 il y a eu un accord, c'est parce que l'Occident s'est trouvé d'une façon ou d'une autre contraint de le faire. Voilà. Donc maintenant, et ceci étant dit, même si on aboutit à un accord ou pas, il se peut, c'est vrai que, comme mon collègue le dit, enfin en tout cas j'ai cru entendre, comprendre, il se peut que ce soit une façon de, comment dire, de faire traîner les choses avant peut-être une attaque ou d'autres formes d'agression. Mais je pense quand même que il y a un rapport de force qui s'est installé aujourd'hui. Vous savez qu'on parle par exemple d'un OTAN, d'une forme d'organisation de défense à la manière de l'OTAN entre le régime sioniste et les monarchies du Golfe. Donc ça rentre dans ce processus d'encerclement et de pression sur l'Iran. Dans quelle mesure, dans les négociations, cet élément, parce que ça va probablement se faire. Donc c'est une autre forme, c'est une carte que l'Occident veut faire jouer pour faire pression sur l'Iran, pour lui faire comprendre, voilà, on va faire un accord, mais à votre détriment.
Merci, bon, merci Monsieur Cohen.
Je ne crois pas que l'Iran va se désarmer au point de faire un accord qui lui soit défavorable.
Merci Monsieur Cohen.
C'est tout un... Pardon ?
Je vous remercie infiniment. Alors,
oui, je vous en prie.
Merci.
C'est très difficile au téléphone. Enfin, voilà.
Merci, Jacob Cohen, analyste politique depuis Paris, Luc Michel,
merci
géopoliticien
beaucoup
depuis Bruxelles. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. La présidence algérienne a annoncé que les élections législatives anticipées se tiendraient dans le pays le 12 juin, conformément au décret signé par Abdelmadjid Tebboune, président algérien. Les élections législatives anticipées se dérouleront en Algérie le 12 juin sur décision du président Abdelmadjid Tebboune, a déclaré ce jeudi 11 mars la présidence algérienne. Conformément à l'article 151 de la Constitution, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a signé aujourd'hui le décret présidentiel sur l'organisation des élections législatives le samedi 12 juin 2021, a indiqué la présidence. Le 18 février, Abdelmadjid Tebboune a dissous l'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, et a annoncé des élections locales et législatives anticipées pour faire face à la crise politique, économique et sanitaire qui éprend le pays. Le 21 février, il a procédé à un remaniement partiel de son gouvernement, très attendu, mais sans changement majeur. Lors du scrutin du 12 juin, les Algériens devront élire pour 5 ans les 462 députés de la 8e législature de l'Assemblée populaire nationale. Le Parlement libyen accorde sa confiance au nouveau gouvernement. Le porte-parole de la Chambre des représentants libyennes, Parlement Abdullah Balhik, a déclaré que la confiance avait été accordée au nouveau gouvernement d'Union nationale selon le site officiel du Parlement. La Chambre des représentants a accordé sa confiance au gouvernement d'Union nationale par une majorité de 132 voix, a-t-il précisé. Depuis lundi, la Chambre des représentants s'est réunie dans la ville de Sirte, à quelques 450 km à l'est de la capitale Tripoli, afin de décider d'accorder ou non sa confiance au nouveau gouvernement dirigé par le nouveau Premier ministre désigné Abdul Hamid Zaibah. Le Forum du dialogue politique libyen, soutenu par les Nations Unies, a récemment désigné une nouvelle autorité exécutive pour le pays qui a été saluée par toutes les parties libyennes. La principale mission de ce nouvel exécutif est de préparer le pays d'Afrique du Nord pour les prochaines élections générales qui se tiendront le 24 décembre convenu par le Forum du dialogue politique libyen. La Côte d'Ivoire décrète un deuil national de 8 jours suite au décès de son premier ministre. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a décrété jeudi un deuil national de 8 jours suite au décès du premier ministre Ahmed Bakayoko. Au cours de cette période de deuil national de 8 jours à compter du vendredi 12 mars 2021, les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire, indiqué un communiqué officiel. Le chef du gouvernement ivoirien Ahmed Bakayoko est décédé mercredi en Allemagne des suites d'un cancer à l'âge de 56 ans. Il est cumulé des fonctions de Premier ministre et de ministre de la Défense. L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz sera poursuivi pour corruption ce jeudi. Le procureur de Nouakchott a inculpé l'ancien chef de l'État et une dizaine de hautes personnalités. Le procureur Bahamedou Ould Abdelaziz a demandé le placement sous contrôle judiciaire de Mohamed Ould Abdelaziz, d'un de ses gendres, de deux anciens Premier ministre et de plusieurs anciens ministres et hommes d'affaires. Ils étaient jeudi en cours de présentation au juge qui doit décider s'il suit les réquisitions du procureur. La liste des chefs d'inculpation dressés contre lui par le parquet sur lesquels le juge d'instruction doit statuer et enquêter est longue, a dit une source proche du parquet qui s'exprimait sous le couvert de l'anonymat en raison de la confidentialité et de la sensibilité des investigations. Elle comporte notamment la corruption, le blanchiment d'argent, l'enrichissement illicite, la dilapidation de biens publics, l'octroi d'avantages indus et l'obstruction au déroulement de la justice selon la même source. L'Égypte et la RDC discutent du barrage éthiopien sur le Nil. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et son homologue de la République démocratique du Congo, RDC, Félix Tshisekedi, ont discuté par téléphone du litige qui entoure le grand barrage de la Renaissance d'Éthiopie. Au cours de la conversation, al-Sissi a réitéré la position de l'Égypte qui souhaite parvenir à un accord juridiquement contraignant sur les règles de remplissage et d'exploitation des grands barrages de la Renaissance avant la prochaine saison des pluies afin de préserver les droits des hydriques et des pays situés en aval du barrage, a indiqué dans un communiqué le porte-parole de la présidence égyptienne Bassam Radi. Le président égyptien a également réaffirmé le soutien de l'Égypte à la proposition soudanaise de former un quatuor international sous la présidence de l'Union africaine pour servir de médiateur dans les pourparlers sur le grand barrage de la Renaissance. Il a souligné que son pays souhaitait développer ses relations avec la RDC à tous les niveaux et renforcer la coordination entre les deux pays sur diverses questions régionales d'intérêt commun. Le président congolais Tshisekedi, dont le pays exerce actuellement la présidence tournante de l'Union africaine, a pour sa part apprécié les efforts de l'Égypte pour trouver une solution équilibrée au problème du grand barrage de la Renaissance en tenant compte des intérêts de toutes les parties concernées. Un certain nombre de fabricants iraniens d'équipements médicaux présentent leurs produits dans le Kenya, pays d'Afrique de l'Est. Les produits présentés au Centre des exportations d'innovation et de technologie d'Iran pourraient attirer l'attention du marché kenyan et des hommes d'affaires. Et pour la première fois, les produits exportés par le secteur de la santé iranien ont été enregistrés au Kenya. Une carte d'identité kenyane leur a été délivrée. Le processus d'enregistrement légal des produits de Kenya 4 entreprises iraniennes basées sur la connaissance dans le domaine des équipements médicaux et terminées. 5 autres entreprises dans ce domaine attendent la fin des procédures légales d'enregistrement dans le système spécialisé du ministère kényan de la santé. Sur la base des lois kényanes, l'importation de tout produit de santé nécessite un enregistrement local et l'approbation du système spécialisé compétent. Et après enregistrement, il sera possible de commercialiser et de vendre des produits sur le marché kényan et par conséquent en Afrique de l'Est. Le déploiement du vaccin contre le COVID-19 en Afrique est en bonne voie selon l'OMC. Le déploiement du vaccin contre le COVID-19 en Afrique a accéléré alors que le nombre total de cas recensés sur le continent a presque atteint 4 millions, a indiqué jeudi un responsable de l'Organisation mondiale de la santé. Le directeur régional de l'OMC pour l'Afrique, Matt Shidiso Moeti a indiqué que l'arrivée de doses de vaccins supplémentaires renforcerait les efforts pour contenir la pandémie sur ce continent. Toutefois, le nombre de doses restera limité. Il est essentiel que les travailleurs de santé de première ligne et les autres groupes prioritaires soient en tête de file d'attente, a-t-il déclaré dans un communiqué publié à Nairobi. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.